micro du soir, Aïch la RFI.
Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Dragan, directrice de l'ONG Free, qui vient en aide aux femmes et enfants victimes d'exploitation sexuelle. C'est la première fois, je crois, que nous traitons de ce sujet-là au Micro du Soir. Il était temps. Laetitia Dragan, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Je crois que vous nous parlez depuis Brașov, où vous habitez désormais. Alors, je lis sur le site de votre association, associaciafree.org, qui est très bien fait, et vous dites vous-même dans une petite vidéo que la Roumanie reste un pays particulièrement touché par le trafic humain et l'exploitation sexuelle. Il s'agit d'un problème qui dure depuis de nombreuses années. Et ce, malgré l'arrestation de centaines de proxénètes à la tête de réseaux transnationaux. Alors, pourquoi il y a cette espèce de statu quo malheureux et toutefois, où sont les avancées dans ce domaine?
Tout à fait. Donc le TIP Report, le Trafficking Person Report, qui donne un peu une évaluation de chaque pays chaque année, du coup, attention la Roumanie depuis plusieurs années du fait que la Roumanie, plusieurs années consécutives, on est encore le pays de top d'origine pour tout ce qui est la traite humaine ici en Europe. Donc ça, on sait que voilà.
Plus que la Hongrie, que la Bulgarie, c'est vraiment par rapport au nombre d'habitants, c'est la Roumanie qui reste le premier pays.
Ouais, dans les dernières années. C'est vrai que des fois, il y a la Bulgarie. C'est vrai qu'on parle aussi de la Moldavie. La Moldavie, je pense qu'il y a proportionnellement avec la population, c'est plus élevé. Mais étant donné que c'est un petit pays, du coup, il y a moins de nombre de victimes. Donc, on est vraiment un pays de top pour tout ce qui est la traite humaine. C'est vrai que vous parlez des arrestations. Il y a des arrestations qui sont faites. Il y a des progrès qui se font. Mais encore, on garde ce titre voilà, de pays d'origine numéro un. Nous, dans notre travail, ce qu'on voit par rapport aux arrestations, oui, il y a des arrestations, il y a encore des choses qui restent à faire quand même, notamment par rapport à tout ce qui est dommages. Il y a très peu de femmes encore en Roumanie qui, malgré ces arrestations et ces procès, réussissent à obtenir du coup des dommages et intérêts pour, par rapport à
la situation d'exploitation. Parce qu'elles ont vécu, et toutefois, par rapport à votre association, mais aussi de façon plus large, vous avez observé quelques avancées quand même, ou pas du tout?
Alors, on se base beaucoup sur les chiffres de l'Agence nationale contre la traite humaine, qui du coup présente des chiffres officiels. C'est une partie de la réalité qu'on voit. Il s'agit des victimes qui sont identifiées. Dans les années précédentes, on avait autour de 1000 personnes qui étaient chaque année identifiées dans cette base de données de l'agence. Et on est descendu à environ 500 personnes ces dernières années, donc presque la moitié.
Donc la question est... Pardon, excusez-moi, je vous coupe. 500 personnes victimes par an.
Oui, qui sont identifiées.
D'accord.
Qui sont identifiées. Et donc la question était, est-ce que la Roumanie a fait des progrès et du coup il y a moins de victimes, ou est-ce que les victimes sont moins identifiées? Et donc il semble que le problème, c'est justement l'identification. Et donc ce même rapport des Américains, le TIP Report, attention depuis plusieurs années que la Roumanie a besoin de faire des progrès par rapport à l'identification des victimes, puisque les victimes ne sont pas très très bien identifiées. On estimerait qu'en fait le nombre de victimes identifiées, ça représenterait peut-être 1% de la réalité voilà, de ce qui se passe. Et donc le reste des personnes ne sont pas identifiées, le reste des personnes ne sont pas aidées. Et donc voilà, ça donne un autre chiffre.
Oui, je comprends. Ouais. Vous mentionniez cette agence j'informerai également les auditrices auditeurs que sur la période 2024-2028, l'État roumain a lancé une stratégie nationale contre le trafic de personnes. Dans un précédent entretien, j'ai pu consulter Silviat Busco, professeur à l'université américano-roumaine de Bucarest et consultante en matière de lutte contre le trafic de personnes et le crime organisé, qui me disait que, comme vous le dites, il y a une sous-estimation de ces personnes victimes d'exploitation, et c'est en grande partie à cause du manque de fonds alloués à ce problème-là. Donc j'aimerais, une nouvelle fois, on est dans la dynamique, l'État qui ne prend pas complètement ses responsabilités, et heureusement qu'il y a des ONG comme la vôtre qui prennent le relais et font un peu le travail à la place de l'État. Est-ce qu'il y a un peu de ça ?
Tout à fait. Vous mentionnez ces fonds. Oui, il y a un plan stratégique national qui prévoit des fonds. Mais pour l'instant, aucune ONG a réussi à obtenir ces fonds. Ils sont dans une idée, il y a un projet, mais...
Parce qu'il faut, ils vous seraient alloués, ces fonds, en fait. Ces fonds-là, c'est pas... Ils utiliseraient des, dans le bon sens du terme, des structures comme la vôtre, spécialisées dans le domaine, pour justement mieux identifier les victimes, c'est ça. Donc vous attendez un peu que ça se débloque.
En particulier par rapport à l'assistance. Ouais. Il n'y a pas eu de fonds qui ont été donnés jusqu'à présent pour l'assistance des victimes. Comme vous l'avez mentionné, l'assistance des victimes s'est faite pratiquement dans la totalité par les ONG qui travaillent ici en Roumanie. Mais ces fonds, malheureusement, la façon dont ça a été écrit, ça a été impossible pour les ONG de pouvoir recevoir les fonds. Donc on a plusieurs de nos collègues du network auquel on fait partie, qui s'appelle le Network Protect, qui a 24... ONG active. Donc certains d'entre eux ont essayé cette année d'obtenir ces fonds, mais sans succès. Pour l'instant, la façon dont ça a été écrit, les conditions qui ont été mises ne permettent pas qu'on accède à ces fonds. Nous-mêmes, notre association, on est une des rares associations à avoir une licence sociale par rapport à l'assistance des personnes victimes de la traite humaine sur Bucarest. Et il y a quelques années aussi, on a pu appliquer du coup pour un appel de fonds qui a été fait par la municipalité de Bucarest. C'était une première, mais la façon dont la grant avait été réfléchie, les conditions ont fait qu'on n'a pas pu finalement accéder, alors qu'on était les seuls possibles à pouvoir accéder. On a dû renoncer à ces fonds. On a dû renoncer, d'une part parce que c'était une période très très courte, c'était très complexe à justifier. Et ensuite aussi par le fait qu'on demandait l'accès à tous les dossiers des bénéficiaires, ce qui n'était pas possible dans notre domaine par rapport à la sécurité de nos bénéficiaires. On ne pouvait pas transmettre à la municipalité tous nos dossiers. Donc on voit qu'il y a des tentatives, mais sans succès encore, et que pour l'instant encore, les ONG n'arrivent pas à accéder à des fonds pour l'assistance des victimes. Ah. Alors qu'il y a des droits qui sont écrits. Mais dans la pratique, en fait, l'État n'offre pas de possibilité d'assistance, donc c'est les ONG. Vous aviez...
Mais alors, des fonds sont alloués, mais comment vous au-delà des aspects bureaucratiques, du manque de logistique, je ne sais pas, mais comment se fait-il que l'État ne facilite pas l'accès à ces fonds? Mais est-ce qu'il y a une raison politique ou autre? Comment vous l'expliquez?
C'est sûr que l'État en général et l'allocation des fonds, ça se fait d'une façon qui est très très administrative, qui est très complexe, qui fait que du coup ça demande énormément de travail. Alors quand dans une ONG on fait le poids entre la quantité de travail que ça demande à la fois pour appliquer et à la fois pour gérer les fonds avec le bénéfice, souvent on trouve que ça ne vaut pas le coup. Donc ça, c'est une première raison. Bon, aussi, je pense qu'il y a eu des éléments qui n'ont pas été pris en considération, du fait que les victimes de la traite, c'est un public particulier, il y a des risques qui sont particuliers, qui demandent une réponse qui soit vraiment spécifique. Et du coup, ça n'a pas été encore bien réfléchi, ce qui fait que du coup, voilà, les ONG n'acceptent pas encore à ces fonds.
Et puis, je suppose toujours cette paranoïa des malversations et qui touche également votre domaine. Voilà, l'argent public, c'est comme si on en avait un petit peu peur. Hein, et donc, on se prémunit parfois un petit peu trop et ces fonds ne sont pas accessibles. Alors, pour donner un petit peu de contexte, l'Agence nationale de lutte contre le trafic de personnes que vous avez mentionné depuis sa création il y a presque 20 ans, aurait secouru environ 20 000 victimes et permis la condamnation de plus de 4 000 trafiquants. Voilà pour le contexte. Alors, venons-en aux victimes. Vous, dites-moi. Oui, oui, tout à fait.
Vous parlez de secouru. L'Agence nationale ne secourt personne. C'est vrai que c'est eux qui identifient, c'est eux qui ont ce registre qui existe des victimes, mais eux-mêmes n'ont ni assistance.
Ils identifient, c'est tout, ouais. D'accord.
Voilà, ils s'identifient, c'est tout. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit peu une frustration ces dernières années aussi dans le discours public qui a été fait par rapport à cette assistance offerte aux victimes, parce que les ONG sont principalement l'acteur principal d'assistance des victimes, avec bien sûr les services sociaux pour ce qui est des mineurs. Donc les services sociaux s'occupent en partie de victimes et de l'assistance des mineurs, mais pour ce qui est des adultes, ça va être principalement les ONG.
Alors, venons-en aux victimes précisément. Vous, récemment, à Associa Free, qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a des tendances nouvelles? On sait que la consommation de drogue est souvent concomitante avec l'exploitation sexuelle. Est-ce qu'il y a de nouvelles drogues particulières qui sont consommées? Qu'est-ce qui vous a marqué récemment?
Je ne pourrais pas dire que la partie de drogue nous a marqué de façon spécifique dans les dernières années. Nous, ça fait plus de 11 ans qu'on travaille directement avec les femmes qui sont dans la prostitution. On est la seule ONG anti-trafic qui avons cette activité d'outreach à la fois dans la rue, dans plusieurs villes, mais aussi dans ce qu'on appelle indoors, dans ces salons de massage et dans ces strip clubs aussi, et sur la partie en ligne aussi. Il y a toujours eu de la drogue. C'est vrai que la drogue, ça n'a pas toujours été la même. On a beaucoup de drogues classiques, comme il y a l'héroïne, mais il y a également tout ce qui est, voilà, ce qui est synthétique. Ça se change un petit peu des substances au fil des années, mais on a eu ça quand même, voilà, tout au long de ces 11 années de travail. Ce que je pourrais dire qu'en tant que changement qu'on a observé, c'est beaucoup la partie d'exploitation en ligne. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup pendant la période du Covid, en particulier le fait qu'une grosse partie de la prostitution d'exploitation se fait maintenant en ligne. Par exemple, l'université Syracuse y parlait à un moment donné d'une mutation de près de 80% de la prostitution sur ce qui est en ligne. On parle de l'Internet comme le plus grand red light district au monde maintenant. Et donc, on sait qu'énormément d'exploitation, en particulier d'enfants, mais aussi de femmes, se fait par l'intermédiaire de l'Internet. Les tentatives de notre association aussi à adapter nos stratégies pour pouvoir atteindre ces femmes. Et donc, nous avons une activité de outreach en ligne où on va contacter ces femmes de façon téléphonique pour justement pouvoir leur proposer nos services. La partie dans la rue qu'on voit, la partie visible de la prostitution, c'est vraiment le haut de l'iceberg. On sait que c'est vraiment une toute petite partie et que le reste, ça se fait dans des lieux qui sont plus cachés, plus difficiles d'accès pour nous. Donc ça, c'est une des choses qu'on voit. Après, on parle aussi beaucoup de ce qu'on parle du vidéo chat. Vidéo chat, on dit que la Roumanie, c'est un pays numéro un. Pareil pour ce qui est du vidéo chat en Europe. Tout ce qui est prostitution virtuelle, on va dire. Et malgré que le fait que ça soit plus ou moins légal, la prostitution étant illégale en Roumanie, mais les vidéo chat, c'est toléré. On voit quand même qu'il y a, c'est un biais que les personnes vont utiliser pour aussi recruter des victimes. Il n'y a pas énormément d'études et de statistiques faites sur ça, mais des cas qu'on rencontre régulièrement nous parlent aussi d'un recrutement et d'une exploitation qui est faite par ce biais de ces vidéo chats.
C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de dire, c'est que via le vidéo chat, après, il y a une exploitation, que je dirais, concrètement physique, c'est ça?
Oui, des fois, voilà, il y a certains salons qui sont enregistrés, qui sont réels, qui sont contrôlés. Il y en a d'autres qui sont pas légales et du coup qui attirent par des annonces des jeunes femmes pour travailler avec eux, pour après les exploiter.
D'accord. Parce que des structures qui ont pour activité principale vidéo chat peuvent, j'imagine, facilement passer entre les mailles du filet. Comme vous le dites, c'est une activité qui est tolérée. Vu que c'est virtuel, on peut faire passer ça pour du conseil, enfin je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est pour ça que ça passe entre les mailles du filet, parce qu'en fait il y a un problème législatif également.
Oui, c'est ça.
Il faudrait être, d'après vous, beaucoup plus strict par rapport à ces structures, j'imagine.
Ouais, je pense aussi. Et une chose auquel on ne parle pas très souvent, c'est aussi l'impact de cette prostitution qui se fait en ligne. On pense que c'est très différent de celle qui est physique, mais l'impact psychologique qu'on voit des femmes qui ont été actives dans ce domaine est souvent très similaire à ceux qui ont été exploités physiquement. En particulier par le fait que voilà, on demande plus de choses, les personnes se sentent plus libres quand elles sont face à un écran, donc du coup il y a une clientèle qui demande beaucoup de choses qui sont un peu hors normes, qui sont plus violentes, qui sont plus humiliantes pour les femmes, et du coup l'impact psychologique est grand.
Donc il y a vraiment j'imagine un travail de prévention à faire, notamment vis-à-vis de ces, je pense aux étudiantes qui pour payer leurs études ou leur loyer se disent bon ma foi il n'y a pas de contact physique, c'est que du virtuel, ça, c'est bien payé, allons-y. Donc là il y a vraiment un gros travail à faire de prévention pour leur dire non, attention, il y a des conséquences psychologiques graves si vous faites ça.
Tout à fait. Ils sont très bons dans le niveau de leur communication et donc la communication qui se font. Souvent avec les jeunes filles, peut-être à la sortie du métro, vous avez peut-être observé les flyers qui se distribuent. Donc vraiment, il y a cette clientèle très très jeune, cet objectif d'attirer des jeunes en disant que voilà, c'est un travail psychologique, ça donne, il y a le empowerment des femmes derrière tout ça. Tu fais juste ce que tu veux et donc tu n'es pas obligé d'aller plus loin si tu ne souhaites pas te déshabiller tout ça. Mais en fait, on sait que la réalité, la pression pour faire l'argent, ben, c'est justement en faisant des choses qui te compromettent. Et du coup, ouais, avec un impact. Et donc, la prévention, c'est très important. Je me rappelle en particulier un lycée dans la ville de Reguin, qui du coup n'avait pas énormément d'opportunités pour les jeunes femmes qui sortaient du lycée. Il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas d'opportunités de travail. Et j'avais demandé combien d'entre elles auraient considéré faire du vidéochat. Et j'étais vraiment surprise que la grande majorité de la classe, du coup, a levé la main sans savoir de quoi il s'agissait vraiment, en ayant l'impression que voilà, c'est un métier qui rapporte bien et qui ne demande pas grand-chose. Donc c'est une des choses qu'on présente beaucoup aux jeunes.
Et j'imagine qu'il y a aussi le problème de l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire ceux qui consomment ces vidéochats qui ne sont pas nécessairement en Roumanie, qui peuvent être n'importe où à travers le monde, d'autant plus que les jeunes roumaines sont souvent très, très à l'aise dans les langues étrangères. Donc j'imagine que voilà, s'attaquer à ceux qui consomment et qui demandent ce genre de service, c'est un peu mission impossible.
C'est un peu mission impossible. Je pensais notamment à une information, parce que je reviens de Norvège, du coup la Norvège qui est un pays nordique, qui a une législation nordique par rapport à la prostitution, tout comme la France d'ailleurs, qui punit du coup le client, mais qui sont vraiment dépassés par le fait qu'ils disaient que l'année précédente, plusieurs milliers de Norvégiens avaient fait appel dans différents pays à une prostitution en ligne, mais des abus sexuels auprès des enfants live, payés, qui sont faits par les familles. Et donc, il y avait un cas de plusieurs milliers de ce genre de crimes qui a été fait par les Norvégiens, mais du coup, très, très difficile de condamner. Et parler un petit peu en particulier de la difficulté, voilà, de pouvoir contrôler ce genre de crimes.
Est-ce que les enfants également sont particulièrement touchés en Roumanie, où c'est une minorité et on reste dans les cas de figure de mineurs et jeunes femmes ou jeunes hommes d'ailleurs.
On sait que l'exploitation sexuelle en Roumanie, c'est une affaire de femmes en majorité. Il y a quelques hommes qui sont identifiés, mais c'est vraiment une petite proportion. On sait que 3/5 des nombres de victimes qui ont été identifiées, c'est de l'exploitation sexuelle. Et la moitié de ces cas, ça va être des enfants. Et effectivement, l'exploitation en ligne des enfants, tout ce qui est pornographie infantile, c'est une forme d'exploitation qu'on voit dans ces cas qui ont été identifiés.
Vous dites la moitié.
La moitié des cas identifiés d'exploitation sexuelle, c'est des mineurs.
D'accord, des mineurs. Mais pas nécessairement, pas des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Comment vous dites ? Est-ce qu'on arrive à identifier ça ?
Ouais, nous, on parle d'enfants quand c'est des personnes qui ont en dessous de 18 ans.
D'accord.
Et du coup, les statistiques qu'on a, on n'apparaît pas forcément l'âge. Donc, on parle d'enfants en dessous de 18 ans. Ça peut être aussi les enfants d'en dessous de 12 ans aussi, c'est possible.
Mais il n'y a pas cette catégorisation-là, par exemple, l'Agence nationale dont vous parliez de lutte contre le trafic de personnes ne précise pas, ne catégorise pas de façon plus j'irais subtile, entre guillemets, le fait que bon, il y a enfants jusqu'à 12 ans, 12, 13 ans, et puis après il y a les adolescents et puis les jeunes adultes. Il n'y a pas cette catégorisation-là?
D'après ce que je me rappelle du rapport, de ma consultation des rapports, je n'ai pas vu dans les rapports officiels une catégorisation des enfants. Généralement, la catégorie, c'est en dessous de 18 ans.
D'accord.
Après, eux, ils ont les informations. Donc, c'est sûr, mais dans le rapport officiel, je n'ai pas, pas observé ça.
L'association Free, alors, mis à part ces fonds que vous attendez de la part de l'État, vous vous financez comment ?
Personnes individuelles, quelques entreprises, des fondations, vraiment financer au maximum, c'est surtout des fonds privés.
C'est
difficile.
Oui.
En particulier quand on parle d'entreprise, en Roumanie, du coup, on a la possibilité, c'est vraiment génial sur cette partie-là, d'avoir la redirection de l'impôt sur le profit des entreprises, mais on voit beaucoup de réticences par rapport aux entreprises pour redirectionner dans des activités telles que la nôtre, parce qu'on voit beaucoup encore. Voilà, de jugements, d'idées préconçues sur le sujet, ce qui fait que c'est quand même difficile de convaincre les entreprises en Roumanie de redirectionner pour notre cause, malheureusement.
D'accord.
On arrive quand même, on a quand même quelques-uns.
Et entre ONG liées directement ou indirectement à ces problèmes-là, vous sentez de l'entraide ? Aussi pour trouver des financements, ou alors c'est un peu chacun pour soi?
Ça dépend. Par exemple, je vais parler notamment de notre network d'ONG qui s'appelle Protect. C'est vraiment un network qui fonctionne très bien. On sent beaucoup d'entraide, à la fois par rapport au financement. Donc certaines associations reçoivent plus de financement, ont peut-être moins de victimes, et du coup, vous redirectionnez le surplus sur d'autres ONG qui ont plus de victimes. Donc on voit vraiment cette collaboration, ce qui est vraiment chouette.
D'après vous, le nerf de la guerre, c'est vraiment la prévention. On a l'impression que on peut incarcérer les plus gros proxénètes. C'est un phénomène qui ne s'arrête pas. Donc pour vous, le maître mot, c'est vraiment prévention.
La prévention, ça en fait partie, bien sûr. Par exemple, au niveau financier, pour nous, il y a un de nos collègues qui ont quantifié les budgets et du coup qui disent que ça coûte 10 000 fois plus un projet de restauration comme on a dans notre maison pour les victimes sur Brasov. C'est 10 000 fois plus cher qu'un projet de prévention. Donc, il y a vraiment un aspect de coût. Après, on sait que les projets de protection des victimes, de rétablissement psychologique, de tout ce que ça comporte, voilà, c'est un petit nombre, ça coûte très cher. Donc c'est vrai que la prévention, c'est très important.
Une chose. Donc, excusez-moi Laetitia Dragan, vous êtes en train de dire que la prévention, ça coûte moins cher, c'est-à-dire que mettre en place des structures et de faire et voilà et de soigner et de guérir plutôt que d'essayer de prévenir, quoi.
Tout à fait, c'est très très cher ce genre de service. Et donc du coup, c'est beaucoup plus efficace. Une chose qui est très importante que je voulais souligner aussi, c'est par rapport à toute la législation et également par rapport à la pornographie. Souvent, on ne fait pas le lien entre la pornographie et la traite humaine, mais on voit de plus en plus de liens qui sont très, très évidents. Et notamment le fait que les victimes sont souvent filmées pendant leurs abus et que plusieurs plateformes de sites pornographiques permettent qu'on télécharge sans vérifier l'origine des matériels, et du coup beaucoup de victimes ont trouvé leur matériel dans ces sites, et donc de plus en plus on attire l'attention sur le fait qu'il faut vraiment une législation qui soit plus sévère pour pas permettre que des personnes qui soient exploitées et abusées soient exposées et voilà, qu'on fasse de l'argent sur le dos de leurs abus. Et notamment aux États-Unis, il y a cette grande campagne qui s'appelle Trafficking Hub qui a combattu le site Pornhub, où justement des milliers et des milliers de vidéoclips de femmes abusées et exploitées étaient en ligne, et ils faisaient légalement de l'argent voilà, sans être puni pour ça. Et donc, du coup, il y a eu une campagne qui a été faite et qui a été gagnée. Et du coup, maintenant, il y a ces restrictions par rapport à la validation de l'origine et du consentement des femmes qui sont dans ces vidéoclips. Je pense que c'est important aussi la prévention par rapport à ça. C'est un fléau, on en parle maintenant au niveau de la santé publique, l'impact de la prostitution, de la pornographie sur les enfants. Et aussi, on sait que ça engendre souvent le fait que les jeunes vont vouloir, ou les jeunes ou les moins jeunes vont vouloir aller plus loin et vont consommer directement des services de ces personnes qui sont exploitées sexuellement.
Est-ce que vous avez le sentiment en Roumanie que la vague, on appelle la vague MeToo, je ne sais pas si l'expression est toujours valable, mais parce que c'est plus trop une vague maintenant, j'espère que en tout cas elle a laissé elle a laissé ses marques et qu'elle a changé les mentalités, en tout cas en Occident, je veux le croire, en partie. Est-ce que en Roumanie vous avez ressenti un de la part des hommes, notamment notre regard par rapport à la femme, peut-être davantage de respect dans l'absolu, disons ça comme ça, ou pas véritablement?
Pour être honnête, j'ai du mal encore à avoir le changement. Après, ça dépend vraiment des personnes, mais de façon globale encore, on ne sent pas vraiment un changement. C'est un changement qui est vraiment difficile, ça se fera, j'espère, par les jeunes. Ce sera la prochaine génération qui va sûrement apporter ce changement. Où on est vraiment confronté à une mentalité patriarcale où l'abus est encore toléré de façon générale. Les abus sexuels, mais aussi les abus domestiques, c'est largement encore toléré et accepté par la plupart des personnes. Donc on est encore avec des mentalités qui ont besoin d'être changées. Je pense que ce sera les jeunes et les prochaines générations qui vont apporter ce changement.
Ça me fait penser.
Une prise de conscience. Mais voilà, c'est difficile à changer une mentalité qui est vraiment très ancrée depuis des générations.
Une dernière petite question, Laetitia Dragan. Je reviens à votre site, qui est très bien fait, hein, comme je l'ai dit, je crois. Vous mentionnez, à un moment donné, que Dieu est au centre de votre travail, c'est-à-dire?
On est une association avec des valeurs chrétiennes. Les personnes qui travaillent, du coup, on a ces valeurs. Et donc, on considère que la personne a plusieurs facettes. On parle de cette restauration holistique et donc la partie spirituelle. On pense qu'aussi l'abus, l'exploitation a un effet sur la partie spirituelle de l'homme. Et donc, nous, on offre la possibilité aux personnes qui le souhaitent et qui sont ouvertes pour ça aussi à recevoir cette restauration au niveau spirituel.
D'accord. Eh bien, Laetitia et Dragan, j'ai été ravi de vous avoir au micro du soir. Il était nécessaire de vous rencontrer et d'avoir votre témoignage. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Et espérons que ces fonds dont vous parliez se débloqueront rapidement. Merci Laetitia Dragan. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end. Week-end Blackout. Au revoir.
Le micro du soir, Aïch la RFI.